Mas e
En direct de Montevideo, Marseille, pour cette cinquième édition d'Actoral, festival d'écriture contemporaine. Un festival qui entre dans sa deuxième semaine de programmation, c'est dire si celle-ci est étendue et diverse, pour faire découvrir jusqu'au 7 octobre de nombreuses formes de l'écrit, lecture ou mise en espace, mais aussi des performances, des installations, des concerts. Vous avez pu écouter hier Littoral, tentative de réécriture radiophonique de la première semaine de programmation. Voici maintenant un plateau pour découvrir parmi les nombreux auteurs présents pour cette manifestation quelques personnalités singulières qui sont avec nous autour de cette table. Benoît Bradel, Anne-James Chaton, Nathalie Quintane, Arnaud Calija et Christophe Fiat, ainsi que Manuel Joseph qui est venu nous rejoindre. Bonjour à tous et merci à tous d'avoir accepté cette invitation à l'antenne de Grenouille. Actoral 5, cinquième mouture d'une formule qui n'en est pas vraiment une, qui ne cherche en tout cas pas à se limiter à une forme, à un style ou à un genre, mais qui se passionne plutôt pour les rencontres, les expériences et les métamorphoses. Un festival initié et porté par Hubert Collat, auteur et metteur en scène, directeur de la compagnie Diphtong, qui est avec nous sur ce plateau et nous accueille en ces lieux. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Dans cette programmation, au-delà de traditionnelles lectures, tu portes évidemment une attention particulière à la scène, aux mises en espace, aux écritures scéniques. Est-ce que c'est une sorte de réaction contre les esprits chagrins qui pensent que plus rien de nouveau ne s'écrit pour la scène, que la scène perd ses mots?
Disons que ça, c'est le texte que j'ai écrit un peu en préambule dans le programme d'Actoral, mais en réalité, le problème n'est pas de faire une édition qui serait en réaction sur ce qui a pu se passer, tout du moins dans le milieu de théâtral contemporain. C'est beaucoup plus peut-être on va dire l'architecture même de la proposition qu'on fait à Montevideo, c'est-à-dire le bâtiment, la structure qu'on a inventée ici, qui au fur et à mesure des années a bien insisté sur le fait qu'il y avait plein de rencontres qui se faisaient et que bon nombre d'artistes, d'auteurs que j'ai invités ici, finalement ne faisaient pas seuls, et que bon nombre de pratiques qui se faisaient aussi au théâtre, comme celle de Benoît Bradel, avaient comme ça des chemins de transversalité qui rencontraient la poésie sonore ou d'autres formes. Donc c'est finalement en étant simplement à l'écoute de ça, à l'écoute des artistes, que d'un seul coup, cette nécessité-là de produire de plus en plus un festival qui s'ouvre sur toutes les tendances de l'écriture était devenue pour moi une nécessité, et plus qu'une nécessité finalement, simplement le besoin que les artistes avaient quand ils venaient ici, c'était celui-ci. Et que c'est simplement peut-être une écoute du temps, de l'époque dans laquelle on est, qui est le reflet de ce qui se passe ici à Actoral. Bien évidemment, le petit mot qui est mis en exergue dans le programme touche ce qui a pu se passer l'année dernière sur le Festival d'Avignon, une espèce de réaction très simple, voire peut-être primaire de ma part, tout simplement par rapport à ce qui s'était passé, où la problématique des écritures de théâtre contemporaine me paraissait un débat complètement dépassé, complètement abscon, et que ce n'est pas le problème, et que l'écriture a toujours été présente et dans toutes les formes et dans toutes les diversités, quelles que soient les époques. Simplement, l'évolution de l'écoute du monde et du temps et des êtres entre eux bouge en permanence. Et ce qui accroche une certaine parole par moment des êtres n'est pas simplement la même chose aujourd'hui. Que le monde contemporain, on va dire la population contemporaine de nos villes ne vit pas forcément au rythme de la création contemporaine. Donc c'est simplement ce décalage-là et c'est tout. Et donc ce débat-là était purement bien stérile de ma part. Pas de ma part, de la part du festival.
Cinquième édition d'Actoral, est-ce que cette cinquième édition a une couleur particulière peut-être par rapport à celles qui l'ont précédée? Ou est-ce que tu es vraiment dans la continuité de ce que tu as commencé à mettre en place il y a quelques années?
Non, je ne pense pas qu'il y ait une couleur différente. Encore une fois, ce sont les artistes qui vont donner par les formes qu'ils présentent et leurs textes comme ça. Peut-être un rassemblement, on pourra peut-être à la fin de cette édition-là, peut-être mesurer combien il y a du lien entre tous ces artistes, mais à l'heure actuelle, non. Par contre, ce qu'on essaye de développer, c'est effectivement de faire grandir ce festival, essayer de trouver plus de moyens pour pouvoir donner plus de moyens aux artistes pour être présents ici, pour qu'un certain type de travail aussi se fasse pendant l'année à Montevideo et qu'on ait plus de souplesse et qu'on puisse accueillir plus de public pour témoigner en fait de tous ces travaux-là. Donc si Actoral a une couleur particulière cette année, c'est celle-ci. Donc il est un peu plus grand, on essaie de donner plus d'espace, de voir effectivement, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'être plus proche des écoutes des artistes, de façon à ce qu'ils puissent être mieux accompagnés par les gens qu'ils désirent. Voilà, c'est essentiellement ça, je pense.
On l'évoquait tout à l'heure, une grande diversité de propositions, une attention particulière à la scène et une transversalité considérable aussi, la volonté de donner à l'écriture des champs d'investigation très larges qui embrassent aussi bien la vidéo, qui embrassent aussi bien les arts plastiques, qui embrassent aussi bien les domaines sonores. Cette transversalité, c'est un élément voulu de ta part ?
Bon, moi, oui.
La demande des artistes ?
Disons que je disais aussi tout à l'heure que je suis un homme de théâtre en fait. Donc, à l'origine, j'ai d'abord écouté les écritures théâtrales contemporaines et je me suis bien rendu compte que là aussi nous nous ouvrions dans toutes les formes et que, encore une fois, ça, c'est beaucoup dû au lieu de Montevideo. C'est parce que ici j'ai ouvert des pratiques et au-delà de ma propre pratique, d'un seul coup j'ai eu des rencontres, des sensibilités. Ce que je lisais chez moi tout seul et les affinités que j'avais avec l'écriture se sont ouvertes forcément ici et j'ai eu envie d'inviter les poètes et les écrivains que je pouvais lire et qu'en les rencontrant, j'ai vu les formes sur lesquelles ils travaillaient et que du coup plus je vais vers ça, plus la diversité s'impose parce qu'elle existe et pas parce que je la désire simplement.
Une attention aussi aux arts plastiques avec une exposition d'un artiste, Stéphane Bérard. Peut-être oui. Quelques mots sur ce qu'il présente, qui s'intitule Le Sport Courage.
Oui, quelques mots sur Stéphane, mais qui n'est pas simplement qu'il ne faut pas catégoriser Stéphane Bérard en
simplement comme plasticien. Il a aussi un travail d'écriture.
Je pense qu'il a un travail très éclectique par rapport à sa position sur l'art. Donc, définir Stéphane Bérard en deux minutes serait un exercice pour moi trop périlleux. Il expose ici en fait quatre objets qui sont en fait des détournements de véhicules sportifs, on va dire, où il y a au lieu d'avoir des slogans publicitaires, on a des slogans en fait qui sont des slogans sociaux, on peut dire, ou de solidarité, etc., etc. Et donc il y a un déplacement comme ça qui est fait. La première chose qu'on voit, on voit quasiment pas les impacts en fait au départ quand on voit ces objets, c'est petit à petit, d'un seul coup on voit que la moto exposée est détournée et que d'un seul coup ça nous fait réfléchir autrement.
Manière de mettre en abîme la compétition omniprésente dans le sport et ailleurs d'ailleurs, et la nécessité aussi de valeurs de solidarité. Une recherche d'auteur, une recherche d'artiste qui va bien au-delà de la région, bien au-delà de Marseille, et une volonté constante de ta part aussi, Hubert, d'aller rencontrer des artistes au-delà des frontières. Je pense par exemple à Ivana Sachko, avec laquelle tu présentes une œuvre intitulée Europe, que tu as présentée en fait à Avignon, je crois, il y a quelques temps.
Oui, c'est une collaboration avec le Festival d'Avignon l'été dernier, où en fait tout le festival m'avait demandé de travailler, de regarder les nouvelles écritures dramatiques de l'ex-Yougoslavie. Donc en fait, simplement en lisant un certain nombre d'auteurs, j'ai pu lire les textes d'Ivana Sachko, en fait, qui est à la fois auteur de théâtre, mais aussi performeuse. Donc en fait, la plupart de ses écritures ont un lien à la performance et j'étais très séduit par cette écriture-là qui parle de l'Europe à la fois avec la figure mythologique et en même temps, elle décrit dans ce texte le mouvement de la dislocation de l'ex-Yougoslavie et en même temps, elle met en perspective l'avenir de l'Europe et ce que peut représenter cette espèce d'énorme champ libéral qui est en train quand même de nous tomber dessus lentement mais sûrement et cette dictature du libéralisme. Donc elle pointe en perspective ce que pourrait devenir d'une certaine façon l'Europe et le mauvais présage que cela peut nous envoyer.
La traduction.
Mais il y a aussi, par exemple, de Peter, pas Peter, Soto, Soto, Christian Soto, qui est un jeune auteur aussi chilien, qu'on a invité aussi cette année, qui a été présenté par Émilie Rousset aussi. Ça fait partie des nouvelles écritures de théâtre, et parce que j'ai un rapport un peu privilégié, peut-être avec l'Amérique latine, où c'est un pays, enfin, un continent où je me rends souvent, pour avoir pratiqué des ateliers d'écriture, etc., etc., et un certain nombre de rencontres, il y a une grande soif de l'écriture contemporaine là-bas, un vrai désir de voir comment nous nous inscrivons dans le théâtre ici. Donc chaque année, un peu, j'essaye d'aider un jeune auteur à participer à un actoral.
La traduction, un aspect important aussi de l'écriture, souvent méconnu, mais un aspect déterminant. Tu as toi-même, je crois, réalisé un certain nombre de traductions, en tout cas tu les favorises, d'auteurs venant d'Allemagne notamment et venant d'Amérique du Sud. Un élément auquel tu es particulièrement attentif, cette nécessité de traduire des auteurs, de les faire connaître.
Oui, enfin de faire connaître, parce qu'après, à partir du moment où j'ai choisi, en fait, le fait de j'ai une nature qui fait que j'ai choisi de m'établir dans un lieu, donc à partir de là, je veux transmettre des choses, en tous les cas, donner le moyen aux artistes de transmettre. Disons que cette nature-là, je l'ai en moi et que j'ai pas besoin d'y travailler. Après, sur la traduction, c'est autre chose. J'ai un travail d'auteur-metteur en scène. Quand je présente de nouveaux auteurs qui sont pas traduits, j'essaie de mettre en avant de nouvelles traductions, des choses comme ça. Ici, c'est pas trop le cas, c'est des auteurs étrangers déjà traduits qui sont présentés la plupart du temps. Donc ce n'est pas un travail sur la traduction. C'est pendant l'année en fait que se situent des travaux ici à Montevideo sur les textes d'auteurs contemporains non traduits.
On parlait tout à l'heure de transversalité. Eh bien, à propos de transversalité, justement, on a pu découvrir la semaine dernière une proposition intitulée Napoli Express, une proposition scénico-matographique proposée par Benoît Bradel et Anne-James Chaton. Alors, Benoît, peut-être tout de suite, scénico-matographique, c'est-à-dire ?
J'en sais rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt comme un jeu au départ de... En fait, c'est un projet qui était un projet de réunir un poète sonore, donc un James Chaton, moi-même qui suis à la fois metteur en scène, qui suis vidéaste, qui suis acteur, et on avait envie de travailler autour de ce matériau napolitain, et en fait de travailler dans un espace un petit peu différent. Moi c'est vrai que je travaille souvent autour du... Je fais des films pour les autres, je fais des films pour moi. Et là, j'avais envie d'un espace qui soit un espace un petit peu différent, où les gens puissent déambuler, parcourir la ville. Et donc, voilà. Et je cherchais toujours comment appeler ça. On appelle ça toujours un spectacle, une pièce. Et là, je ne sais pas, voilà, c'est sorti comme ça.
Une rencontre, en tout cas, avec la ville de Naples et une rencontre avec Anne-James. Comment s'est faite cette rencontre autour de cette ville ?
Ça, c'est une vieille histoire à moi personnelle où, voilà, d'avoir découvert un peu il y a une quinzaine d'années par amour cette ville et puis d'y être resté fidèle en y retournant pratiquement tous les ans et avoir envie à force d'en faire quelque chose qui soit plus du domaine privé mais d'en faire sortir un projet de spectacle. Et du coup, j'avais pas envie de prendre une pièce existante. J'avais envie de proposer à quelqu'un qui travaillait sur. Je trouvais que je connaissais bien James et son écriture et son travail sur la ville et le voyage, et que lui ne connaissait absolument pas ni Naples ni l'Italie, et que ça m'intéressait justement d'avoir le regard de quelqu'un qui dans un texte allait pouvoir, dans une partition, proposer quelque chose qui viendrait en. Avec mon regard qui lui par contre connaît bien cette ville depuis longtemps.
Anne-James, c'est la première fois que tu te déplaces ainsi du domaine de la poésie et particulièrement de la poésie sonore dans l'espace de la scène. C'est la première expérience que tu fais dans ce domaine.
Faut préciser, j'ai fait des expériences dans le domaine des scènes de rock'n'roll, mais sur la scène de théâtre, oui, c'est la première fois.
Comment est-ce que tu as appréhendé justement cette ville de Naples ? Comment est-ce que tu l'as rencontrée ? Je crois qu'au départ, il y a une histoire de carte postale que vous vous envoyez.
Oui, je l'ai perçue au travers d'un certain nombre de signes visuels, mais très très furtifs, ce que sont les cartes postales. Et donc des descriptions très subjectives que pouvait m'en donner Benoît. Après quoi, j'ai effectué un premier déplacement dans la ville, seul. Je tenais à y aller seul. Et voilà, et ça s'est fait de manière très rapide en même temps, parce que je n'ai pas fait énormément de séjours dans la ville, mais voilà.
Une ville qui a une dimension sonore tout à fait particulière. On dit que c'est la ville la plus bruyante d'Europe. Est-ce que c'est cette dimension sonore-là qui vous a intéressé tous les deux ?
Ça fait partie des dimensions qui effectivement ont guidé le travail. C'est-à-dire qu'Anjem a réalisé beaucoup d'enregistrements sur place. Mais ce qui nous intéressait, c'était toutes les différentes couches justement dans cette ville.
Oui, elle est très silencieuse aussi. Elle peut être très silencieuse. Ça dépend de l'endroit dans lequel on se trouve. Mais il y a une multitude de degrés, de gains dans la ville. Et on peut se trouver dans des endroits complètement silencieux, comme dans des endroits effectivement qui sont très perturbés, très...
Mais c'est vrai que moi j'avais travaillé sur un précédent spectacle autour du travail de John Cage sur le silence et le bruit. Et c'est vrai que finalement j'avais jamais pensé, mais qu'à Naples on retrouve justement toute cette richesse-là qui a aussi mené l'écriture du projet.
Et puis une tierce personne qui est venue vous rejoindre pour compléter la distribution de ce spectacle Napoli Express, c'est une danseuse qui vient, je crois, de Corée, Yoongae Kim. Pourquoi ce choix d'abord d'introduire la danse et puis surtout d'introduire quelqu'un qui, sans doute, venant de très loin, ne connaît pas grand-chose finalement de cette ville ?
Moi, c'était pour avoir une troisième dimension, justement, de quelqu'un dont la culture était très loin de Naples et comment elle allait appréhender Maradona, la pizza, l'Antiquité, les Grecs, les Romains, et qu'est-ce que ça pouvait raconter. Et puis, c'était avoir aussi... plus qu'à la danse, une autre relation à un autre corps, au mouvement qui soit très différente des présences qu'on pouvait avoir tous les deux avec Anne James. Et puis il y a aussi un musicien et compositeur sonore qui travaille avec nous, parce qu'il y a énormément de... sur la multidiffusion. Voilà.
Est-ce que pour toi, l'écriture cinématographique est très différente de l'écriture théâtrale ? Ou est-ce que tu retrouves à peu près les mêmes éléments ?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression de travailler les deux de manière très particulière déjà. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme... Moi, je n'ai pas de recette et je ne travaille pas selon des schémas. J'ai l'impression à chaque fois de repartir à zéro, de pas savoir faire grand-chose. Donc à chaque fois, de recommencer. Et puis, effectivement, des fois, je me dis que c'est un film. Des fois, je me dis que c'est une pièce. Des fois, je me dis que c'est une exposition. Je travaille souvent sans savoir vraiment quelle est la place de cet objet. Et puis finalement, ça finit par s'appeler projet scénico-matographique.
Ça n'est pas le genre qui importe au fond, c'est la manière dont l'artiste s'en empare. Cinéma et vidéo. La vidéo prend une place de plus en plus importante dans de nombreuses formes de création d'ailleurs. Et le théâtre et la danse dialoguent avec elle depuis longtemps. Mais la vidéo peut aussi, et c'est assez étonnant, servir de support d'écriture. C'est sous cette forme que tu proposes, Hubert, une série d'impromptus. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Oui, rapidement. En fait, c'est l'année dernière, en fait, j'avais vu un film de Patrick Lafont qu'il avait réalisé à Sofia. Et ce film, j'aimais beaucoup. Et j'ai proposé à Patrick qu'un certain nombre d'écrivains qui participent à Actoral se mettent à écrire. En fait, et donc une proposition d'un film d'un quart d'heure. Et qu'ils écrivent autour de ce film en étant totalement libres de l'interpréter ou de le commenter comme ils le désirent. Et donc c'est devenu un principe dans Actoral d'inviter chaque année en fait un vidéaste ou un cinéaste à proposer une image d'un quart d'heure et de proposer donc à quatre écrivains d'écrire dessus. Et ils ont un champ extrêmement, extrêmement libre. Et là, ils peuvent faire des interventions qui sont aussi sonores, musicales à l'intérieur de ça. Et donc c'est un principe. Et du coup, on arrive à quatre récits en fait extrêmement différents sur une seule proposition. La suite de ça, d'ailleurs de cette aventure, et j'espère que dans Actoral 6, on ira jusqu'au bout de cette proposition, c'est d'inviter quatre musiciens à faire une partition musicale aussi sur cette vidéo. Donc en fait, d'avoir un objet en fait, qui se regroupe avec 8 artistes en fait, autour de ça. Cette année, c'est Laurent Friquet qui a réalisé une vidéo. Et puis c'est Orion Scoï qui a réalisé un texte de dessus, Jean-Jacques Vuitton, Sonia Cambretto.
Et Thomas Bréchet.
Et Thomas Bréchet.
Une vidéo intitulée Road to Nowhere. Quel regard tu portes finalement sur cette diversité de textes ? Est-ce que tu as écouté, est-ce que tu as une idée comme ça sur les différences notamment d'approche de ces quatre auteurs par rapport aux mêmes images?
C'est l'appréhension de l'image.
Est-ce qu'on retrouve
en fait,
quelque chose?
Disons que sur la vidéo de Laurent Friquet, qui est très 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 rythmée en termes d'image, donc ça, je pense que ça a soulevé un certain nombre de problèmes de savoir comment insérer une parole, une écriture dans une image où la diffusion est extrêmement rapide. Donc je pense que il y a quelques textes comme ça qui se sont rapprochés, mais la personnalité de chaque auteur est toujours présente à l'intérieur de ça, et c'est voir comment elle réapparaît et comment quelque chose aussi dans l'écriture est. Il y a le fait de proposer comme ça une image, est obligé, il y a un dépassement qui est à faire à un endroit, et je pense que ça provoque ça. Moi, je me suis mis moi-même dans le jeu de ça, puisque j'ai réalisé aussi un texte sur la vidéo de Patrick Lafont, et je vois bien ce que ça provoque. À un moment donné, il y a quelque chose qui peut être assez violent, finalement, d'avoir une image imposée. Et à un moment donné, on rentre dans l'image, en fait. C'est finalement, j'ai eu la même sensation que quand je traduis des textes. Finalement, à un moment donné, j'ai un corps étranger sur lequel je suis en opposition. Et puis, à un moment donné, je fonds dans la langue. Et c'est quasiment la musicalité, pratiquement des fois même des textures de voyelles qui font qu'à un moment donné, j'arrive à traduire. Et c'est pareil avec l'image. Moi, je me suis mis à rentrer dans l'image et être quasiment un corps de la pellicule. C'est à partir de là où je me suis senti libre de pouvoir écrire. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui s'y inscrit. Ce qui est extrêmement important en tous les cas, et c'est la même chose pour Actoral, c'est que c'est avant toute chose des artistes qui sont invités, à part cette contrainte-là sur les films, en fait, tous les artistes qui viennent ici ont la totale liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire et d'inviter qui ils ont envie d'inviter. Et pour moi, extrêmement important parce que c'est ce qui donne aussi un caractère à l'ensemble d'Actoral. Et puis surtout une circulation particulière entre les artistes eux-mêmes et aussi pour le public. Ils viennent voir quelque chose où l'intensité, on va dire presque des corps ou de la parole, est particulière. Elle est différente finalement peut-être des lieux de diffusion où a priori c'est un objet déjà connu qui est proposé, installé, formaté la plupart du temps, où ça crée peut-être même un champ de passivité. Là, il y a comme une action et une énergie d'action qui fait que c'est différent.
Un public qui, je le confirme, est venu nombreux tout au long de ces soirées de programmation du festival Actoral. On souhaite que ça dure jusqu'au 7, je rappelle, c'est à Montevideo. Montevideo, de nombreuses lectures sont proposées dans le cadre de ce festival, certaines sur un mode très, très classique, une table, une chaise, un verre d'eau. Et d'autres vraiment sur un mode complètement différent, sur un mode beaucoup plus performatif. C'est le cas notamment de Christophe Fiat, qui va proposer demain Agency, une performance. Est-ce qu'on peut le décrire comme ça?
Oui, c'est ce que j'appelle une performance en fait.
Donc je crois que ça
Plus,
marche.
ouais, plus par, en fait, plus par commodité. Qu'autre chose, en fait. Sauf que le mot est assez commode aujourd'hui pour définir une lecture amplifiée. C'est-à-dire une lecture qui, à un moment, s'accapare la scène. Moi, mon travail, il est en deux temps. Le premier temps, j'écris des bouquins, je suis écrivain. Et je n'écris pas des bouquins pour performer, j'écris des bouquins pour qu'ils soient lus dans le silence de l'alcôve, enfin de la chambre, ou le brouhaha des terrasses de café, ou le métro, enfin bref. Et ensuite, je me pose la question du hors-livre, c'est-à-dire à partir de quel moment la littérature, enfin le livre, ça devient du texte. À partir du moment où ça tisse quelque chose qui occupe la scène et qui passe par moi, et éventuellement par d'autres gens. Alors aujourd'hui, quand je dis que c'est commode, la performance, c'est parce que voilà, c'est un mot qui est à la mode, et moi j'aime beaucoup la mode. Et étant donné que je pense qu'on vit une époque quand même assez, assez, assez complexe sur un plan politique et social, pour pas dire une époque assez de détresse, je pense que le plus court chemin pour atteindre le public, quand on est écrivain et qu'on veut lire, eh bien c'est la performance. Voilà, tout perform en anglais, ça veut dire convaincre, c'est-à-dire passer un contrat avec un public, non pas convaincre au sens de fasciner un public. L'intérêt de la performance, en fait, c'est que très rapidement, on sait si le contrat a été tenu ou pas. Très rapidement, on sait si les gens ont aimé ou pas, s'ils ont compris ou pas, et s'ils ont envie d'analyser ou pas ce qui s'est passé sur la scène.
Manuel Joseph, tu voulais réagir sur cette notion de performance. Tu vas présenter ce soir une performance intitulée La danse de l'homme ivre.
La danse de l'homme ivre étant un titre, mais je voudrais revenir, je ne sais si l'on m'entend.
On t'entend.
Bien, merci. Sur ce qu'a dit Hubert tout à l'heure, je ne pense pas que la scène ait perdu ses mots. Je pense que la scène a perdu le courage de ses mots. Mais là, je pourrais même jouer sur MAUX, n'est-ce pas ?
Et la performance, c'est donc un acte de courage ? C'est une manière vraiment d'affirmer le courage ?
C'est une manière également d'affirmer que la scène n'a pas perdu, la scène théâtrale. On va en venir à ce qu'on appelle le spectacle vivant, pour simplifier. Non, bien évidemment que la scène n'a pas perdu ses mots, mais elle a perdu le courage, vraiment, d'aller vers d'autres mots. Et là, j'aimerais passer la parole par rapport à la musique et à certains développements. Je déteste, même je renie le terme de transversalité parce que pour moi, il est dévalué depuis bien longtemps.
Donc comme ça, celui de performance d'ailleurs.
Non, ça c'est autre chose parce qu'il est remis au goût du jour. Et j'aime bien les choses qui sont remises au goût du jour parce que bon, c'est comme un pot-au-feu. C'est meilleur, réchauffé.
Il faut le cuire longtemps.
Mais
on va peut-être revenir.
Je vais simplement passer la parole à...
Très rapidement.
Un motif. _ R, ce qui veut dire Stéphane Chalumeau, sur justement la musique, le son et un espace sonore qui peut englober, s'immiscer et non pas déformer, mais en tout cas augmenter et amplifier. C'est ce dont parlait Christophe Fiat il y a à peu près 17 secondes. Donc je passe vraiment la parole à Stéphane Chalumeau, mais je maintiens que c'est plutôt le spectacle vivant qui a perdu le courage d'aller vers des mots nouveaux.
Stéphane ?
Oui, alors merci Emmanuel de me passer la parole. Ouais. Le spectacle vivant a perdu ses mots. Alors je ne sais pas, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des gens du spectacle vivant qui justement prennent des risques, enfin en tout cas essayent des choses nouvelles. Des chorégraphes, des gens comme ça, voilà. Bon. Et qui font des mélanges. Par exemple, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Lin Yuanchang, qui est un chorégraphe d'origine taïwanaise, et qui présente tout son background de l'opéra de Pékin, mais mélangé à la sauce occidentale. Et donc, c'est quelqu'un que je conseille de découvrir, surtout, enfin, aussi quand il y a ma musique dessus, quoi, voilà. Bon. C'est tout. Et par rapport à ce qu'on fait avec Manuel ce soir, voilà, alors on parlait de rencontres tout à l'heure, et ben c'est exactement ça, ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. C'est une rencontre qu'on improvise quasiment. Il y a une part d'improvisation dans ce qu'on va faire, et ce ne sera pas une illustration sonore des mots de Manuel, mais plus une, comme tu disais, s'immiscer. Une façon de confronter, peut-être aussi, et de mettre des images sonores, oui, sur. Donc c'est, mais sans illustrer, sans aller dans la facilité de tel mot, hop, aura l'écho de tel son, ou enfin tel son se fera l'écho de tel mot. Ce sera plus une façon de rencontrer deux univers qui vont se compléter à des moments et à des moments vont complètement se lâcher peut-être aussi. Voilà. C'était quoi ta question exactement par rapport à moi ?
Non, ma question c'était par rapport à la scène qui aurait perdu ses mots.
Ouais.
Non.
Donc
moi,
voilà,
la scène
je t'ai dit.
Avait
voilà.
Bon, si vous voulez bien, on va peut-être pas faire toute la soirée
d'aller
là-dessus.
À la rencontre des mots. Mais non, mais pour en finir en fait, tout ce que je pourrais dire c'est soyez et soyons. Sournois.
Sournois.
Et courageux.
Je vais peut-être retrouver Christo Siat, peut-être une réaction d'ailleurs.
Pour rebondir sur les mots MOTS et MAUX de la scène et sur la sournoiserie, mais tu dis ça avec humour, je pense, Manuel. Je pense que si la.
Strictement aucun humour.
Je pense que. Mais si, tu as beaucoup d'humour, on en parlait encore dans le train tout à l'heure. Manuel me fait souvent rire jaune et ça fait partie de l'humour pour moi. Et je pense que si aujourd'hui le terme de transversalité et de performance, c'est des termes autant la mode et aussi populaire, en fait, c'est simplement parce qu'on vit une époque de crise économique par rapport au spectacle vivant. La performance 70, c'était une époque de crise idéologique. Aujourd'hui, un performeur peut remplir une salle de 300 personnes pour 500 euros quoi, de salaire. C'est très, très économique pour les lieux. De même que la transversalité, ça permet aux divers subventionneurs de se renvoyer la balle et de donner des miettes en permettant aux artistes de croire qu'ils sont dans l'art total parce qu'ils cumulent à la fois l'art contemporain, la musique, la littérature, le performatif, la danse et tout le tintouin. Moi, si je suis ici depuis bientôt 2002, parce qu'Hubert m'a invité au premier actoral, si j'ai accepté d'être actoral et si Hubert est devenu un ami, c'est parce qu'Hubert, c'est un homme avant tout qui aime la littérature et qui se pose des vraies questions sur qu'est-ce que c'est que la littérature sur la scène. Voilà, ça je voudrais le dire et ça c'est très, très important et il a fait un travail effectivement en quelques années qui est énorme, qui a brassé énormément de choses. La question, cette question-là, elle est donc éminemment politique. Maintenant qu'il y a cette crise économique qui existe aujourd'hui, eh bien effectivement, on a tout l'avenir devant nous pour devenir des performeurs superstars, mais des performeurs superstars qui vont se substituer au loupen prolétariat du 19e siècle et devenir des travailleurs de l'immatériel dans une aristocratie complètement désargentée. Moi, je suis un performeur qui a besoin d'argent pour travailler, et cet argent, effectivement, eh bien, on m'empêche de l'avoir en invoquant la transversalité et la mode de la performance. Voilà. Et l'art, un artiste a besoin d'argent pour travailler, c'est ça que je voulais dire. Et bien sûr, bien entendu, de vivre aussi.
Une autre réalité économique que j'aimerais bien qu'on aborde aussi avec toi, Christo Siat, si tu veux bien, c'est celle de la revue, de l'édition. Je crois qu'au-delà de cette activité de performance, tu animes aussi une revue qui s'appelle Mission Impossible. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'animer une revue ? Et comment est-ce qu'on arrive, dans ce contexte de difficulté économique que tu évoques à l'instant, de lui donner quand même vie et
ce n'est pas moi qui... Durer. Je ne dirige plus cette revue. Enfin, cette nouvelle version de la revue est dirigée par Alexandra Baudelot. Je pense que je ne peux pas trop en parler sans... Ce serait à elle de répondre. Elle est beaucoup mieux placée que moi. Effectivement, c'est difficile d'animer une revue et d'avoir des fonds pour avoir une revue, mais pas plus que pour faire autre chose. Je pense qu'il y a de l'argent partout. Le seul problème, c'est de savoir où il est pour l'avoir et bien travailler, tout simplement.
On te décrit parfois comme un auteur pop. Est-ce que tu acceptes ce qualificatif-là ? Est-ce
Mais
que tu l'assumes ?
Ça, c'est les Inrecuptibles qui me décrivent comme un auteur pop, et c'est mon éditeur sur les quatrièmes de couverture. Moi, je suis pop comme Sade était matérialiste, comme Heidegger était phénoménologue, comme Bataille était chrétien, comme Christophe Tarkos aussi était chrétien. Je suis pop parce que... Comme Foucault était PD, exactement, je suis pop parce que c'est dans l'air du temps. Je ne pense pas que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans mon travail. Je pense que je suis un écrivain qui écrit avec son époque, et comme l'époque est pop. Je pense que Sarkozy est beaucoup plus pop que moi, par exemple, quand il dit Karcher, quand il va brader sa femme dans certains magazines, pire qu'une star du porno. Je pense que lui, il est beaucoup plus pop que moi, par exemple. Je pense que les politiques sont plus pop que nous.
Stéphane Chalumeau.
Sur un discours plus virulent maintenant, mais j'aimais bien tout à l'heure ce qu'on s'est dit dans le train. Quand tu comparais l'époque de création qu'on vit actuellement à la Renaissance. Ouais. Voilà, et ça, c'était très intéressant. Est-ce que tu peux en reparler, justement ?
Je pense qu'aujourd'hui, on est confronté au pari pascalien. C'est-à-dire, étant donné qu'on passe après des années d'art mort et de culture morte, aujourd'hui, ce qui se joue pour nous, c'est la question de l'anthropologie et du discours sur l'homme. C'est tout. Moi, si je suis encore artiste, c'est parce que je crois que l'art, finalement, ben, on est en train de tout refonder pour l'instant, quoi. Les supports n'existent plus. La croyance des gens à l'égard de l'art, elle est sans cesse malmenée. On se demande encore comment les gens peuvent croire en ça plutôt qu'à autre chose. Et il est hors de question pour moi, en tout cas, et pour notre génération, de finir comme des écrivains maudits et des artistes maudits. Enfin, parce que c'est même plus du tout une garantie de talent. Enfin, aujourd'hui, il y a des types qui...
Ça ne l'a jamais été.
Ça l'a été au moins dans une certaine... Il y a une superstition. C'est un monde de superstition, là. Hein. Il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, moi, j'en ai souvent parlé avec Laurent Covet, des éditions Aldante. Je lui ai dit, mais comment, Laurent, tu peux publier des gens qui sont du niveau de Michel Houellebecq, qui vont vendre 100 exemplaires et qui ne pourront... Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, même aujourd'hui, quoi, il y a quand même, comment dire, dans notre culture et dans notre art, on est capable de fabriquer des Houellebecq et des Angot qui vendent à 50 exemplaires. Enfin, et c'est terrible. Enfin, c'est Alessandro Baricco qui en parle très bien dans Les Vaches de Wisconsin et la philosophie de Hegel, quoi. Il explique qu'il y a quand même des artistes nuls qui sont capables quand même de rien vendre et d'avoir quand même une réputation. C'est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement nouveau. Donc moi, j'ai pris le parti, effectivement, du courage, comme disait Manuel. Elle a pris le parti, finalement, de parier sur le meilleur et sur quelque chose à venir plutôt que de parier sur la défaite de tout ça. Parce que dans ce cas-là, moi j'arrête d'écrire et je retourne prof de philo. C'est beaucoup plus intéressant en termes de transmission, en tout cas.
Manuel Joseph ?
Non, je pense que Nathalie, sur le courage, a bien des choses à dire.
Veut-elle s'exprimer sur cette question, Nathalie Quintane ?
Moi, je suis totalement lâche, donc j'ai peu de choses à dire sur le courage et sur la foi encore moins, parce que j'essaye plutôt de ne pas croire plutôt que de croire. Donc, non, ce que je voulais, pour revenir à... Je ne sais pas si vous avez une question particulière sur le courage à me poser ou...
Non, c'était là juste une réaction que vous proposez, Manuel, sur
pour revenir à Actoral, parce que cette année, j'ai été au moins autant, sinon plus, spectatrice qu'agissante, on va dire. Je trouve que ce qui est intéressant dans le festival, c'est que ça permet vraiment d'avoir des points de comparaison, des points de repère très nets. C'est-à-dire qu'on peut passer... Je reviens tout à l'heure sur les lectures sèches, c'est-à-dire les lectures, je crois que vous avez définies par la table, le verre d'eau, etc. Je crois que le fait qu'il y ait ces lectures-là, réussies ou pas, mais une performance peut être réussie ou pas, une pièce de théâtre peut être réussie ou pas, peu importe, un spectacle peut être réussi ou pas. Le fait qu'il y ait ces lectures sèches qui sont, comme disait Oka, comme une biscotte sans beurre, quoi, hein, il y a quelque chose comme ça, je trouve que ça agit comme révélateur. Aussi bien, alors dans un sens réciproquement, aussi bien pour ces lectures-là que pour les autres qui vont venir après, avec en effet vidéo ou pas, son ou pas, etc. Et ça permet aux gens qui passent, vraiment c'est ça que je recommande, c'est de passer d'un spectacle à l'autre et de faire au moins une soirée du début à la fin, puisqu'il y a souvent trois actes qui se succèdent, voire quatre. C'est vraiment très très ça apprend beaucoup de choses, voilà, ça change le regard. Et pour terminer avec la présence de des poètes ou de la lecture, ou peu importe si c'est performance ou lecture sèche, je trouve que ça devient, ou inversement si ça se passe du côté du théâtre, ça devient intéressant quand on perd un peu le côté constructif, un peu volontariste de certaines propositions théâtrales, par exemple, pour aller vers quelque chose d'un peu plus négatif, pourquoi pas d'un peu plus lâche, dans tous les sens du terme, et de manière à ce que les choses soient au moins aussi troublés et puissent rendre compte de l'extrême trouble plus que de la complexité, de l'extrême confusion, on va dire, de l'époque, ou enfin du zeitgeist, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et je trouve que vraiment ce que j'ai remarqué sur cette semaine, là, puisqu'on est au terme d'une semaine, c'est qu'il y a un certain nombre de propositions, quelle que soit la nature de la proposition, d'ailleurs, puisque c'est transgenre, on va dire, pour ne pas parler de transversalité, qui sont absolument plaisante et où j'ai beaucoup ri et où tout le monde est là à travailler comme des chiens, ça c'est clair, tout le monde arrive, hein, c'est des gros bosseurs, tout le monde bosse dans son coin, on n'est pas payé beaucoup, mais tout le monde cravache, ça c'est clair. Alors ça, il y a au moins quelque chose, je veux rassurer les subventionneurs, ça cravache avec ou sans argent.
Tout le monde ne travaille pas, c'est faux. Tout le monde ne travaille pas, mais par contre,
ce que j'ai vu ici,
tout le monde ne travaille pas, mais tout le monde est artiste.
Je sais pas, en tout cas, c'est les gens que j'ai vus ici m'ont donné cette impression-là. Et donc, des propositions qui sont drôles, qui tiennent le coup, vraiment, c'est ça, je reprends, hein, c'est ce que j'ai vu ici, c'est pas le cas partout, évidemment, mais où il y a du travail. Et puis, les propositions plus rares, où là, alors là, peut-être qu'on pourrait parler en effet de
toute
risque.
Toute proposition doit être faible.
Plus négatif, on va dire. Et il me semble que le travail du négatif manque un peu. Alors, je sais pas, je pense que ça manque autant à la poésie, si on fait le tour des sites de poésie qui font passer comme ça des voix de poètes, etc. Au moins autant à la poésie qu'au théâtre, ou à ce qui est encore assimilé, classé de ce côté-là, etc. Et voilà, même si aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une sorte de les spectateurs restent jusqu'au bout, ils ne s'en vont pas en plein milieu, ils ne claquent pas la porte, ils ne crient pas en plein milieu, hein, manifeste pas comme ça pouvait être le cas il y a 25 ans, bah quand même, il y a une différence. Et la différence, elle peut être vraiment visible, vraiment révélatrice dans ce type de festival. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir les deux et de pouvoir en tirer ses conclusions, si on peut en tirer des conclusions d'ailleurs, c'est pas obligé non plus.
Autre forme performative, je n'ose pas dire performante, celle que propose Anne-James Chaton, outre sa participation à Napoli Express. Tu présentes aussi, tout à l'heure d'ailleurs, aujourd'hui, Nouvelle NF, une improvisation préparée. Oui. Quelque chose qui dans ton travail revient, je crois, c'est l'idée d'une langue agglomérée. L'idée d'une agglomération constante de mots, très souvent à base de listes, à base d'énumérations. Qu'est-ce qui te rend sensible à cette forme d'écriture ?
Agglomération ou accumulation. Tout d'abord, je ne présenterai pas ce qui est annoncé dans le programme, pour différentes raisons. En second lieu, moi, de plus en plus, je me réserve la possibilité de ne pas parler de performance, parce que je m'interroge sur le sens du mot, et notamment eu égard aux dispositifs techniques que je convoque dans la plupart de mes actions. J'ai quelquefois des difficultés à me dire que je reste dans un cadre de performance.
Est-ce que cette façon de travailler sur le nombre, c'est une manière de dénoncer le surnombre ?
Non, moi je ne
de dénoncer le trop.
Non, moi je ne dénonce rien. Je suis un. Je collecte, je ramasse, j'agence, mais il n'y a aucune intention de dénoncer quoi que ce soit dans ces textes-là. Après, d'où viennent ces textes-là ? Ils viennent de. D'une transformation que j'ai fait subir à certaines de mes lectures, et qui est à la fois, qui sont des lectures à la fois d'autres poètes ou d'écrivains, qui provient aussi pour une part de mes lectures philosophiques. Et le point de ralliement de tout ça, c'est ce qu'un ami un jour me disait de mon travail et qui m'a éclairé sur ce travail-là. Il me dit un jour, moi je considère que tu produis un assèchement de par exemple de travaux tels que ceux de Pérec. C'est vrai, un auteur que j'ai beaucoup lu. Et je crois que c'est ça. Aujourd'hui, je suis ces travaux-là, les travaux que j'ai pu éditer jusqu'à présent, étaient dans une forme d'assèchement.
Cette pièce qu'on n'entendra pas tout à l'heure, donc oui. Nouvelle NF, elle était, je suppose qu'on va la retrouver un peu plus tard, on peut quand même en parler un peu. Je crois que c'était un travail autour du dictionnaire, c'est ça ? Tu récupérais des définitions ?
Non, c'est pas du tout autour du dictionnaire, c'est autour du journal. Et c'est une pièce qui est composée en fait chaque jour, à partir d'un matériau qui est le journal Libération. Et c'est un travail qui vient en fait d'une collaboration que je mène maintenant depuis quelques années avec un guitariste qui s'appelle Andy Moore. C'est avec lui, disons, que j'ai commencé à élaborer un travail de semi-improvisation, c'est-à-dire d'agencement direct d'un certain nombre de matériaux textuels et de matériaux sonores. Après, voilà, il se trouve que pour différentes raisons, aujourd'hui, je sais pas que je ne peux pas, mais c'est que j'ai pas envie de la présenter. Donc, on la retrouvera peut-être plus tard. Donc, je présenterai deux autres choses, un travail qui est quasiment achevé et un second travail qui démarre aussi, donc qui sera quasiment improvisé. C'est pas de l'improvisation, mais comme c'est la première fois que je le ferai, on sera pas très loin de l'improvisation, je pense.
Improvisation préparée, en tout cas quelque chose auquel tu es sensible, c'est cette notion de temps réel, cette notion de l'instant, du maintenant.
Oui,
l'écriture, ça doit être un maintenant, c'est pas quelque chose de préparé, d'élaboré, non, l'écriture, c'est de mis en boîte.
L'écriture, c'est tout le contraire. L'écriture, c'est l'un des plus grands différés. Après, effectivement, parce que je suis dans un cadre de lecture, et parce que je suis sur une scène, et parce que dans le cadre notamment de cette improvisation préparée, en général, je la travaille avec le guitariste, donc elle est préparée dans la mesure où moi j'ai accumulé un certain nombre de matériaux, comme le guitariste lui-même a un certain nombre de phrases dans sa tête. Après, c'est l'in situ qui produit une rencontre entre certaines de mes façons d'intervenir sur sa guitare et vice versa. Donc, on n'est jamais l'improvisation pour moi n'existe pas. Je parle toujours d'improvisation préparée. Je pense qu'Andy en parlerait de la même manière. Mais on n'est pas on est ni dans le présent, ni dans l'instant, ni dans l'immédiateté, bien au contraire.
On serait alors dans la trace ?
Moi, je suis complètement dans la trace. Je viens de là et pour l'instant, j'y suis encore. La trace est ce qui est encore à venir.
Excusez-moi. Ce que je voudrais dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas Montevideo quand même... et qui ne connaissent pas Hubert Colla, c'est que c'est un lieu incroyable, Montevideo. Enfin, c'est un lieu extraordinaire. C'est-à-dire c'est un lieu extraordinaire déjà pour la proposition d'actoral depuis 4 ou 5 ans. Enfin, Hubert a invité une centaine d'écrivains, artistes de tous bords. Par rapport au staff aussi, enfin, l'accueil est à la fois du public et des artistes est d'une générosité absolue. C'est extrêmement important. C'est rare que dans des festivals, on soit accueilli aussi bien. Et en plus, c'est d'une invention et d'une créativité totale. Voilà. Enfin, moi, je sais que pour moi, ça fait quand même 6 ans que je tourne en France et aussi à l'étranger. Et je sais que Montevideo, c'est le seul lieu qui, à chaque fois, quand j'en reviens, et comme performeur, mais aussi comme spectateur, c'est le seul lieu qui me donne envie de continuer et qui m'apprend des choses à tous les niveaux. Et ce lieu, ouais, c'est un véritable paradis, quoi. Pour tout le monde. Et dans ce sens-là, je rebondirai effectivement sur ce que dit Nathalie, quoi, par rapport à c'est un véritable laboratoire. C'est une arène aussi, puisqu'il y a des débats. Et ça, donc, c'est grâce à Hubert Colla, qui est surtout un metteur en scène et un écrivain. Ça veut dire qu'il fait ça en plus. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine, en tout cas.
Hubert, au paradis. Un paradis sans Dieu ni maître. Est-ce que tu as vraiment l'impression que c'était un paradis ?
J'ai des images de témoins de Jéhovah qui me tombent sur la tête quand j'entends parler de paradis. Là, mais... Non, je parle de moi personnellement, pas de ce que tu dis. Hein. C'est pas ça du tout. Mais non. Je sais pas, j'ai du mal à moi en parler de... Je peux pas le vivre de... Voilà, c'est très bien. Benoît va être quelque chose à dire.
Moi, je peux confirmer ce qu'a dit Christophe. Effectivement, je pense que c'est un lieu qui est très important. Moi, je sais qu'aussi, en tant qu'artiste, venir ici pour travailler, c'est un bonheur. Parce que on sent effectivement ce que disait Hubert tout à l'heure, c'est-à-dire une totale liberté de création. Et le maximum des moyens, qui sont parfois petits de cette maison, mais qui sont, en tous les cas, donnés avec une générosité énorme, et dans une liberté la plus grande. Le fait que là, jusqu'à l'ouverture du festival, nous, on a travaillé 2 semaines là-haut, dans le studio théâtre, voilà, dans la plus grande liberté, jusqu'à rencontrer le public qui était là. Donc c'était fantastique. Et c'est vrai que, comme on habite aussi ici, c'est bon, il y a un centre de ressources, mais c'est vrai qu'à la fois on se ressource et à la fois les moyens de la création sont pas forcément financiers seulement, mais tout est mis à disposition pour aboutir à un travail. C'est ce qui fait que voilà, là j'ai fait ça la semaine dernière et là je reviens juste pour être spectateur parce que effectivement là il y a une force de proposition qui fait que on a vraiment envie de, après avoir été là comme artiste, de venir aussi maintenant voir des choses et il y a pléthore que quand on est dedans, on est dans le travail, effectivement, on bosse comme des fous, comme disait Nathalie, on n'a pas le temps de tout voir forcément. Et du coup, là, j'ai eu vraiment cette envie de revenir pour, juste pour voir.
Christophe Fiat, vous vouliez intervenir sur cette question ? Non ? On va peut-être rappeler que Actoral est un festival d'écriture contemporaine. Contemporaine, donc en lien avec le temps, en lien avec, avec l'actualité parfois, ou en tout cas en lien avec ce qui est actuel, avec les enjeux qui se jouent en ce moment ou qui vont se jouer bientôt. Dans ce registre, Nathalie Quintane, vous avez présenté un texte intitulé 2007. Je crois un texte inédit. C'était la première présentation publique de ce texte.
Oui, tout à fait. Mais c'est
écrit spécialement pour l'événement.
Ah oui, c'est tout à fait le lien avec ce que disait. C'est la première fois, ce qu'on vient de dire sur Montevideo, c'est que je fais aussi des lectures depuis quand même pas mal de temps, une bonne dizaine d'années, et c'est la première fois que j'ai eu envie. Malgré tout, parce que ça demande du temps, et puis bon, voilà, je prends ce temps sur un emploi du temps déjà chargé parce que j'ai un travail alimentaire comme un nombre d'entre nous. C'est la première fois que j'ai eu envie d'écrire un texte pour cet endroit-là, d'essayer quelque chose de neuf, parce que je savais que je ne fais que répéter ce qui vient d'être dit, mais je veux le répéter encore. Je savais qu'il y avait une équipe qui était là pour être derrière moi, pour m'aider, parce que je ne suis pas du tout professionnelle du multimédia, etc., etc. Et puis parce qu'il y a une telle ambiance de travail et de recherche et d'amitié ici qu'on a envie d'en faire plus que partout ailleurs. Et j'en ai fait plus que partout ailleurs. Je peux, hélas pour les autres, mais j'en ai fait plus que partout ailleurs.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dimension de chronique dans votre écriture ? Est-ce que c'est une sorte de regard sur le temps, sur l'époque, sur l'aujourd'hui ? Un regard distancié, décalé certainement, mais un regard aussi plein d'ironie, assez mordant. Un commentaire, au fond, sur le monde.
Bah, ça change tout le temps. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout sûre de faire la même chose aujourd'hui que l'année dernière, ni même que le mois d'avant, hein, parce que sinon ce serait l'ennui et je le chasse au grand galop. Mais sur ce texte-là, peut-être que c'est une sorte de... C'est pas une chronique, parce que j'ai essayé d'être à la fois plus... moins chroniquante et peut-être plus aiguë, j'en sais rien, mais... Ce texte-là, c'est tout ce qu'on a dit avant. C'est toutes les difficultés, toute la férocité de tout, tout l'humour, le peu d'humour qu'on peut avoir encore ou plus pour essayer de s'en sortir, parce que c'est ça l'idée, c'est de s'en sortir en y restant d'une certaine manière ou en laissant la porte battante. Négativement agréable ou positivement désagréable, les deux à la fois, je sais pas.
C'est en tout cas caractéristique de votre écriture, cette façon de ne pas considérer que la dureté, la violence du monde doit donner lieu à un abattement, mais au contraire, vous y réagissez avec beaucoup de vivacité et avec beaucoup d'humour. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique. D'autres auteurs aussi présents à Montevideo ont donné des éléments qui étaient, ma foi, fort drôles, sans jamais non plus tomber dans la gaudriole. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique de votre travail, cette volonté de ne jamais être dans le pathos.
Absolument, je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que c'est une position esthétique, politique, éthique et que tout est lié. Je crois que la tristesse a tendance à gagner tous les jours, une espèce de tristesse ambiante et qu'il ne faut, surtout pas la laisser gagner, mais on est obligé d'en tenir compte. Il faut en tenir compte, il faut l'absorber, il faut la mener, la malmener. Jamais autant qu'elle nous malmène, parce que Dieu sait que chaque jour amène son lot, et ici on en a eu aussi. On sait que ce qui nous tient aussi et ce qui nous soutient, qui est l'édition, est en très très grande difficulté. Voilà, donc on ne sait jamais comment demain on va faire, mais on fait quand même, on continue quand même.
Au-delà de la littérature ou de la poésie, qui sont des champs dans lesquels vous intervenez, on a l'impression que votre regard porte encore plus loin. Vous êtes, on parlait tout à l'heure de transversalité, c'est aussi un élément assez important de votre travail. Est-ce qu'on pourrait dire, Nathalie Quintane, que vous n'êtes pas étanche ?
Oui, j'essaye d'être poreuse. J'en sais rien, il va y avoir certains pores qui se bouchent très très vite, hein, qui coincent, ça grippe. et puis d'autres qui essayent de continuer à être en attente. Et ici, c'est l'endroit pour ça.
On parlait de courage tout à l'heure, peut-être sûrement pas peureuse, mais sûrement pas, mais en tout cas poreuse. Poreuse plutôt que peureuse.
Poreuse plutôt.
Voilà, c'est ça l'idée. On signale d'ailleurs au passage que votre dernier roman, qui s'intitule je crois Cavale, est publié chez POL. C'est ça ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Écriture au présent, on devait recevoir aussi sur ce plateau Arnaud Caligia, mais qui apparemment a dû rester coincé dans les embouteillages. Je vais peut-être confier à Hubert Collat le soin redoutable de le présenter, de présenter son travail. Je crois qu'il fait aussi partie de cette famille d'artistes, en tout cas de ceux qui depuis de nombreuses années sont présents autour de toi et constituent cette programmation du Festival Actoral et au-delà la vie de Montevideo. Peut-être quelques mots pour présenter le travail d'Arnaud. Une langue bouillonnante, quelque chose de charnel.
Ouais, j'ai toujours du mal moi, à présenter les artistes parce que j'y ai une sensibilité qui est finalement celle, dans un premier temps, comme le disait tout à l'heure Christophe, avec les livres, et d'abord d'être chez moi enfermé, à les lire et à les vivre, et simplement à un moment donné d'être en sensibilité avec et d'avoir envie que ces écritures, enfin, non pas existent, parce qu'elles existent, mais qu'elles soient entendues et qu'elles vivent autrement à un moment donné, et sortent peut-être du livre et se présentent ici. Arnaud, ça fait quelques années maintenant qu'il est invité ici. J'ai dû lire peut-être des premiers pas comme ça qu'il avait, et puis j'ai tout de suite été sensible à ça, et que j'ai senti une puissance d'oralité comme ça qui me plaisait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'accompagner. On pourrait dire que s'il est dans une certaine famille, je pense qu'il il sera peut-être content ou pas, mais c'est on dirait un petit enfant de Tarkos d'une certaine façon. En tous les cas, il y a quelque chose comme ça où sans doute cette littérature-là a pu l'inspirer à un moment donné. Et maintenant, peut-être qu'il commence aujourd'hui, après l'avoir entendu il y a quelques jours, s'émanciper et à grandir avec sa propre écriture.
Actoral, un grand moment de la programmation de vidéo, un moment qui sans doute ne va pas s'interrompre et va continuer pour les années précédentes. Peut-être très rapidement, quelle évolution pressentie pour les futures éditions d'Actoral, Hubert, toujours dans le même registre ?
L'évolution va être essentiellement une demande très, très pressante que nous allons faire dans un premier temps, comme il a été dit tout à l'heure, en direction de l'argent, on va dire. Donc, je souffre dans ces éditions d'Actoral d'un manque de moyens et que, du coup, cette souffrance que j'ai, j'en fais profiter malheureusement à tous ces poètes et ces écrivains. Et donc, à un moment donné, c'est une chose un peu âpre à vivre tout au long de l'année. Donc, dans un premier temps, malheureusement, les activités de Montevideo en ce qui concerne les écritures vont être obligées de se résumer à cet acte-là majeur pendant l'année, qui va être essentiellement un lieu qui va préparer Actoral, en espérant effectivement que ce festival grandisse, qu'il soit entendu de façon beaucoup plus conséquente par les tutelles et que enfin le lieu peut-être et ce travail-là qui se fait depuis 5 éditions soit vraiment attendu à sa mesure et que je puisse donner les moyens aux artistes d'être présents, de vivre de leur art et d'avoir toujours, en tous les cas, la puissance d'une liberté totale et peut-être d'un courage total, d'une perte totale, d'une peur totale ou d'une porosité totale, je ne sais pas, et d'une transversalité, même si ce mot pour certains est vieux et mal couru maintenant, mais peu m'importe. Ce qui m'intéresse, c'est de donner la liberté la plus importante dans l'acte de création, et que c'est ça que nous allons essayer de poursuivre l'année prochaine dans Actoral 6, avec d'autres collaborations, j'espère.
Et tout de suite, pour ce soir, le programme, c'est La danse de l'homme ivre, Manuel Joseph, qu'on recevait à l'instant, il a l'air bien parti. Avis aux femmes d'Irak de Martin Krimp, mise en scène par Hubert Collat, c'est à La Cité. Toujours à La Cité, Douceur slovaque de Sonia Chiambretto, un auteur aussi à découvrir. À Montevideo, Au cri de Vincent Dupont. Et on terminera la soirée avec Anne-James Chaton, la performance qu'il a évoquée tout à l'heure. La suite du programme sur la grenouille, après les informations de RFI, c'est sur le fil avec Alcaline, Relatif Yann et Gantelmi.
It's summer, spirit of early mists and showers, ixta,
goddess of ropes and snares. Ixchel, the spider web that catches the dew of morning. Zui Kok, virgin fire, patroness of infants. Adziz, the master of cold. Kaku Pocket, who works in fire. Ixtub Doom, she who spits out precious stones. Ixchun Chan, the dangerous one. Apuk, the destroyer. Hiroshima, 1945, August 6, 16 minutes past 8 a.m.